Bonsoir à tous. Comme le savent certains, je suis plutôt une femme de l'écrit que de la parole, donc je vous demande d'être indulgent. J'ai préparé un peu, donc bienvenue à tous. Monsieur Viratel, le directeur de cette maison, m'a demandé d'ouvrir cette soirée. Je le fais avec plaisir et je le fais toujours avec beaucoup d'émotion. Une première émotion qui est vraie à chaque fois, parce que prendre la parole au milieu des 8 poteaux qui sont là, après avoir passé autant de temps sur la côte Est, c'est quelque chose qui m'émeut toujours et je me sens très petite. La seconde raison est particulière à cette soirée. C'est qu'il s'agit de prendre la parole devant beaucoup d'élus de notre pays, que j'ai mission de saluer au nom de toute l'équipe de la Maison de la Nouvelle-Calédonie. Monsieur Pierre Frogier, notre sénateur, Madame Sonia Baquès, membre du Congrès, est attendu également Monsieur Philippe Gomez, député, qui est un peu en retard parce que je crois qu'il y a beaucoup d'embouteillages dans Paris. Madame Isabelle Champmoreau doit arriver également, donc je la salue déjà. Nous sommes vraiment tous très très honorés par la présence également des maires qui étaient déjà avec nous hier. Monsieur Éric Guay, Monsieur Alcide Ponga, Monsieur Alain Lazare. J'espère que je n'oublie personne, j'en oublie sans doute et je vous demande de me pardonner, mais votre présence de soir de rang avec nous à nos côtés, c'est vraiment très très important. D'abord parce que vous tous les élus de la Nouvelle-Calédonie, à ce que je sais de l'histoire, c'est que cette maison vous l'avez voulu et que c'est vous qui l'a portée. Et que pour moi c'est aussi important et je pense que pour nous tous dans cette maison, au fil des mois, c'est extrêmement important. Et puis, il y a une autre particularité dans cette soirée, c'est que sont assis à vos côtés des représentants de l'État. Des représentants, et particulièrement, je salue M. Thierry Lataste, qui aime tellement la Nouvelle-Calédonie qu'il a décidé d'y retourner. Donc, merci, merci vraiment de votre présence à tous. Pardonnez-moi si j'ai oublié quelqu'un, mais voilà, je voulais vous dire à quel point tout ça est effectivement très important. Alors, il y a peut-être une raison aussi, c'est que aujourd'hui, on va parler du nickel. Alors, pour tout vous dire, la décision de faire une soirée sur la thématique du nickel a été prise il y a très longtemps. Peut-être que si ça avait été plus, enfin, il y a quelques semaines seulement, ou même un ou deux mois, on n'aurait pas osé, peut-être, aborder ce thème parce que on sait à quel point il est sensible. Mais il y avait une histoire, c'est qu'en 2015, les deux invités que je salue aussi, qui sont ici, Anne Pitoiset et Éric Beauducel, qui vont prendre le relais et assurer toute cette soirée, sont venus déposer des dossiers de demande de soutien à la Maison de la Nouvelle-Calédonie. Demande de soutien, l'un pour son film sur les terres du roi Nick que vous allez pouvoir découvrir, l'autre pour son livre « Nickel, une passion calédonienne ». Ces deux éclairages nous semblaient importants parce qu'à la fois ils prennent le fil de l'histoire de la relation entre la Nouvelle-Calédonie, entre les Calédoniens et le nickel, mais ça prenait aussi le fil du présent pour essayer de regarder l'état des lieux et dans un propos que Anne avait posé très clairement pour dire voilà, je vais essayer de poser sur la table l'ensemble des éléments et puis chacun se fera son opinion. Donc voilà, mais c'était décidé depuis longtemps, donc on s'est dit qu'on allait continuer et que votre présence nous montre à quel point on a bien fait parce que ce thème du nickel importe à tous et que le cœur de la Nouvelle-Calédonie bat avec. Alors je vous remercie vraiment beaucoup, je vais laisser la place au film, je vais juste dire deux mots sur les deux invités. Éric Beauducel, peut-être parce qu'on commence par son film. Voilà plus de 20 ans que Éric arpente la Nouvelle-Calédonie. Il a commencé, d'après ce qu'il m'a dit, par y marcher. Il marchait du nord au sud et du sud au nord. Il a fait plusieurs films et donc il prendra la peine, après la projection, de vous présenter son film, son projet, pourquoi il l'a fait. Mais il a fait aussi beaucoup d'autres films sur la Calédonie sur lesquels vous pourrez l'interroger. Et puis Anne Pitoiset, qui également est à l'origine d'un certain nombre de livres et de films et de réflexions sur la Nouvelle-Calédonie, qui a décidé de s'arrêter. Je pense qu'elle expliquera aussi pourquoi, à un moment donné, elle a éprouvé le besoin besoin après avoir fait un livre sur André Dang, après avoir écrit de nombreux articles économiques sur la situation du nickel en Nouvelle-Calédonie, avoir aussi parlé de Carambeu et de décider de se poser, de faire cet état des lieux qui remonte là aussi dans la profondeur de la relation entre la Nouvelle-Calédonie, les Calédoniens et le nickel. Donc voilà, je vais juste vous indiquer 2-3 petits éléments concernant cette soirée. Je vous remercie d'éteindre vos téléphones portables, puisqu'il y a un film. On a un lieu à la fois très beau, mais qui doit être mobilisé, et pour lequel, puisqu'on vous invite ensuite à partager le verre de l'amitié, il nous faut tout déménager. Donc, surtout, alors les élus, c'est sûr qu'ils sont chez eux, mais le reste du public resté, on souhaite que vous puissiez partager avec nous ce verre de l'amitié ensuite. Il y aura évidemment la place pour des interventions, pour des questions, et à Eric d'une part, et à Anne Pitoiset d'autre part. Et puis il y a des livres, et donc les livres sont possibles à acquérir au point librairie de la MNC, et également évidemment Anne pourra les dédicacer ensuite. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci.
C'est remarquable, hein. Félicitations.
C'est bien.
Il y a 25 ans, j'ai fait mon premier voyage en Nouvelle-Calédonie. J'étais un jeune lauréat des bourses de l'aventure de la mairie de Paris. Et je suis allé traverser la Calédonie du nord au sud à pied. Et l'idée de départ, c'était de partir sur les traces de Jules Garnier, parce que j'avais lu son histoire et ça m'avait donné envie de partir. Il se trouve que mon parcours a complètement évolué et je n'ai pas vraiment suivi Jules Garnier. Mais c'est 25 ans plus tard que finalement je suis revenu un peu sur ces traces. Et le prolongement, c'est que l'idée de ce film-là, c'était pas tellement je suis pas comme Anne, je connais pas autant que Anne le monde du nickel. Moi, je suis parti plus sur les lieux qui étaient les points de départ à chaque fois de ma déambulation dans le monde du nickel. J'ai toujours été fasciné parce que à chaque fois que je venais en Calédonie, je croisais effectivement ces usines où je passais à proximité de ces lieux. J'avais pas toujours l'opportunité parce que je venais pour autre chose. Et là, moi, j'ai trouvé que quand je suis rentré dans ces lieux, il y a vraiment une force. Il y a une histoire très particulière qu'on sent encore quand on va sur ces lieux. Et comme moi, je suis quelqu'un de l'image, en fait, c'est un peu parti de ça. Et puis après, derrière, il y avait l'envie de traiter l'aspect humain et surtout ce rapport qui est vraiment particulier d'un peuple entier avec une histoire de la mine, quoi. Voilà. Donc je suis parti un peu là-dessus. Et puis après, je me suis laissé porter par le nickel.
Donc, moi, je voulais remercier la Maison de la Nouvelle-Calédonie aussi. J'ai tourné déjà 2 films concernant Créonickel, un sur l'usine du Sud, un sur l'usine du Nord. Ce que je voulais dire, c'est que quand je suis arrivée en Calédonie, j'avais déjà écrit un livre, mais je n'avais pas perçu les enjeux. Et quand j'ai touché de près le nickel, c'est tout de suite un sujet qui est devenu une passion pour moi. Donc le nickel est une passion calédonienne, mais c'est aussi la mienne. Et ça fait plus de 15 ans maintenant que je suis l'histoire du nickel pas à pas. Quand je suis arrivée en l'an 2000, c'était juste après la signature de l'accord de Nouméa. L'usine pilote venait d'être inaugurée, donc on lançait l'usine de Valais. Les discussions étaient vraiment se lançaient aussi pour l'usine du Cognambeau. Et la SLN continuait justement son histoire. Donc j'ai suivi ça en tant que journaliste, pas à pas, aussi en tant que documentariste. Et ça m'a intéressée à la fois d'une manière économique, mais aussi d'une manière anthropologique. Et ce pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est parce qu'à chaque dîner où je vais, partout où je vais, tout le monde me dit « Mais est-ce que tu ne peux pas nous expliquer? On ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe ?» Et que j'enseigne aussi à l'université, et les étudiants aussi sont complètement perdus. Ils ignorent tout, la base du pays dans lequel ils vivent concernant le nickel. Souvent parce que d'ailleurs leurs parents, même s'ils travaillent dans les entreprises, ne leur en parlent pas. Donc il m'est apparu qu'au moment où on approchait des échéances de 2018, où le nickel et l'histoire du nickel est étroitement liée à ces échéances politiques, on l'a bien vu avec les accords de Matignon, avec l'accord de Nouméa, et ça sera, c'est évidemment vrai aussi pour la suite, il m'est apparu que je devais faire un livre qui expliquerait aux Calédoniens ce qu'était le nickel. Et je voulais un livre qui soit didactique, mais aussi qu'il ne soit pas que ça. Donc je l'ai conçu avec une partie historique, enfin en quatre parties, il y a une partie historique qui reprend, et quand on voit toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui, on comprend l'enchaînement des faits. Il y a une seconde partie qui est une partie de portrait, qui sont les principaux acteurs du nickel. Il y a une troisième partie qui est un tour de côte, c'est-à-dire que je suis allée dans les différentes communes, alors j'ai sélectionné de manière arbitraire, je reconnais, où il y avait chaque problématique différente du nickel. Et la quatrième partie, je l'ai voulu, parce que ça me paraissait nécessaire, tourner vers l'étranger. Donc j'ai voyagé, je suis allée à Singapour, je suis allée à Londres, à Paris, et je suis allée au Canada pour voir qu'est-ce qu'on pensait du nickel calédonien à l'extérieur. Parce que ça me paraissait essentiel, parce que je pense que souvent les Calédoniens, ils ont un regard qui est tellement tourné vers eux-mêmes qu'ils ont oublié leur regard extérieur. Et je pensais que moi, je devais le faire. Et c'était d'ailleurs une partie absolument passionnante. Et ça m'a permis de bâtir un ouvrage que, bon, j'estime, enfin, que j'essaye d'être le plus complet possible et qui a même, si ce n'est d'apporter des réponses, au moins d'apporter des éclairages de diverses manières, de façon à ce que chacun, oui, de fait, puisse se faire une idée. Donc, c'était mon objectif. Donc, je ne sais pas si je l'ai atteint. Mais l'idée, c'était et c'était aussi de l'écrire d'une manière extrêmement simple. Alors, c'était la partie la plus difficile. C'est un sujet complexe de le rendre clair. Et avec plusieurs entrées, de façon à ce que finalement, la personne qui ne veuille pas lire l'histoire, elle puisse aller voir les personnages. Et c'est souvent ce qui s'est passé. La première réflexe des gens, ça a été de lire les portraits. C'est pour ça que j'ai mis aussi une iconographie soignée, avec des portraits soignés. Et puis après, les gens ont fait, après, en général, le tour de côte, parce que ça les concernait, c'était leur commune, et puis ils ont découvert des problématiques. Et puis après, ben, j'espère qu'ils ont tout lu. Donc voilà. Donc voilà, c'était ma démarche. Donc s'il y a des questions à poser, je suis prête à répondre aux questions. Et bon, alors je dis que je continue à suivre l'actualité du nickel quasiment au jour le jour pour le quotidien Les Échos, qui est un des quotidiens qui s'y intéresse au sujet.
Et sa richesse principale. Anne Pitoiset, j'ai une question simple pour une économiste. Dans ce phénomène mondial qu'on appelle la malédiction des ressources, qui évidemment s'applique à un certain nombre de pays extracteurs miniers, gaziers, pétroliers, est-ce que vous diriez que la Calédonie a gagné et qu'elle a gagné la bataille contre la malédiction des ressources et que globalement, si on met les choses dans la balance, elle est parvenue à régler les problèmes, les symptômes principaux de cette maladie des états miniers?
Alors, je ne pense pas que la malédiction des matières premières, ce soit une bataille à gagner ou pas. C'est le problème de la diversification d'une économie qui a une richesse principale, qui a tendance à tout cannibaliser. Je veux dire, qu'on pourrait dire, si on veut comparer la Calédonie à d'autres pays qui ont été victimes de cette malédiction des matières premières, c'est que la Calédonie, un quart de son PIB, il vient des apports des transferts financiers de l'État et qui sont réguliers et qui stabilisent énormément l'économie dans les périodes de crise. Donc je pense qu'il n'y a peut-être certainement pas eu assez de diversification. D'ailleurs, maintenant, il y a beaucoup de, projets en ce sens-là. Et que, de fait, en 15 ans, depuis que je suis arrivée, avoir trois usines plus une usine en Corée, offshore, ça crée énormément de perturbations. Ça crée des perturbations. Pourquoi ? C'est des milliards de dollars qui sont déversés sur une population finalement réduite, hein, c'est 270 000 personnes, c'est une ville moyenne de France ou un petit département. J'ai coutume de dire que c'est le département de la Meuse parce que je suis originaire de l'Est. Donc si on imagine qu'on met dans la Meuse deux usines plus une usine à l'extérieur, c'est énorme, à la fois comme bouleversement économique et comme bouleversement sociologique, et pour les personnes et pour les entreprises de la manière de travailler. Et ça a été un tel bouleversement que tout le monde s'est focalisé dessus. Et bon, je pense que de fait, il est temps de songer à autre chose, même s'il y a eu des tentatives, de fait. Hein, je ne veux pas dire qu'il n'y a rien eu de fait. Il y a eu des tentatives, mais c'était tellement cannibalisant. Et finalement, travailler dans la mine, dans le nickel, c'était tellement finalement de l'argent. J'aurais presque tendance à dire facile, parce qu'il y avait beaucoup de contrats, ça a été beaucoup de formations, tous les esprits ont été vraiment mobilisés, parce que c'était à la fois les gens qui travaillaient directement pour la mine, et tous les secteurs parallèles, la construction, tous les secteurs induits, le développement de la province nord, de la zone VKP. Donc moi, je dirais pas forcément que c'est la malédiction des matières premières, je dirais que c'est un risque qui est toujours là, et qu'il faut tenter de corriger. Alors, ce que je je dis souvent, c'est qu'on dit que la mine, elle a un coût. Enfin, c'était très prégnant. Moi, ce que je pense qu'on n'a pas souvent comptabilisé, c'est ce qu'on appelle les effets. Enfin, le mot me manque, mais c'est des effets dont on ne parle pas. Je pense que, par exemple, le développement de l'usine du Nord, qui est bon actuellement un peu en difficulté, qu'est-ce qu'il a apporté ? Il a apporté une stabilité sociale et politique. Et que s'il n'y avait pas eu cette usine, le coût finalement social et politique aurait été certainement énorme. Donc, je pense que c'est une période qui est difficile à traverser. Voilà. Alors, tout le monde est assommé maintenant par. Non, mais je peux parler moins techniquement. Hein.
Dans la partie que vous avez consacrée, j'ai pas lu le livre, hein, donc dans la partie que vous avez consacrée à l'extérieur, est-ce qu'il y a eu des surprises ? Est-ce qu'il y a eu des choses considérées comme des vérités à l'extérieur et qui allaient à l'encontre des idées reçues en Nouvelle-Calédonie, etc.
Oui, alors il y a eu
des points de contraste.
Oui, alors il y a des points de contraste. La première chose qui m'a frappée, c'est que tous mes interlocuteurs connaissaient assez peu la Calédonie. Quand je suis allée à Londres, on m'a dit, oh, bah, de toute façon, Eramet, c'est une petite société, on ne connaît pas. Donc on connaît Glencore, Vale, mais la Calédonie, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, hormis les quelques analystes qui étaient venus lors des conférences. L'avis unanime, c'était ça coûte trop cher en Calédonie. Les coûts sont beaucoup trop chers, les coûts de production, etc. L'avis aussi unanime, c'était on a sous-estimé la complexité du millefeuille administratif. Il faut traiter avec le gouvernement, les provinces, et puis après, il faut traiter avec les clans. Donc oui, le minerai est super, oui, c'est magnifique, mais c'est énormément, ça coûte cher, c'est complexe. Et je m'en suis rendu compte parce que quand en Calédonie il y a eu les usines, tout le monde a dit oh là là, le minerai il est super, et puis il est tout près du bord de mer, c'est d'accès facile, on va pouvoir l'exporter. Et puis je suis allée à Raglan, qui est dans le grand nord québécois, vraiment dans le pôle nord, donc il faut faire de l'avion. Raglan, c'est une usine, c'est des conteneurs en fait, hein, qui sont dans le désert arctique, au milieu de nulle part, et le minerai exploité, il est exploité à 900 mètres sous terre. Et les gens là-bas, ils viennent, ils travaillent 28 jours de suite, 12 heures par jour. Et après, ils ont 3 semaines de congé. Et le minerai, il est extrait à 900 mètres sous terre. Les gens, ils sont quasiment tout seuls, 12 heures par jour avec une machine. Enfin, il y a très peu de main-d'œuvre. Et après, il prend un camion, qui est un camion qui roule sur la neige. Il fait 100 km. Après ce minerai, il prend un brise-glace. Il va jusqu'au port du Québec. Du port du Québec, il prend le train pour aller à Sudbury. Sudbury, c'est une usine, alors grosso modo, on dirait type SLN. Il est traité à Sudbury, il reprend le train pour aller au port du Québec, et de port du Québec, il va en Norvège, dans une usine qui est, on pourrait dire, Sandouville, et il est plus rentable que le minerai calédonien. Et alors là, alors c'est aussi, c'est parce que c'est pas le même type de minerai, c'est un minerai où il y a des, ce qu'on appelle des coproduits, etc. Mais je me suis dit, finalement, tout ce minerai qui fait tout ce trajet avec tout ce que ça implique, de fait, il est plus rentable que le minerai calédonien. Et on a bien vu que quand dans la crise du nickel qui est là actuellement, ce que disent les usines, c'est des questions de coûts. Hein, c'est vraiment des questions de coûts. Donc ça, c'est des choses qui m'ont été dites, que j'ai dit dans le livre parce que je pensais qu'il fallait les dire, et que j'avais écrit comme ça, mais sans vraiment le mesurer. Je pense que quand on le touche du doigt, c'est différent. Et tout le monde... Alors, ce qui m'a surtout frappé aussi, c'était sur les usines, notamment sur l'usine du Sud, qui est hydrométallurgique. Vu les difficultés qu'il y avait techniquement à les mettre en route, ils m'ont dit, mais non, mais attendez, les usines hydrométallurgiques, il en existe, alors pas seulement à Cuba qui pollue, mais il en existe, par exemple, qui sont exploitées par des Japonais, il en existe aux Philippines, et ce qu'ont fait les Japonais, c'est des petites unités. Ils ont fait 10 000 tonnes, et puis quand les 10 000 tonnes marchaient, ils ont reconstruit une unité à côté, qui était 10 000 tonnes, puis après 30 000, et puis ils sont arrivés comme ça à 60 000, mais par petite unité de 10 000. Et ils m'ont dit, mais ça marche très bien comme ça. Ils m'ont dit, qu'en Calédonie, on a fait, c'est qu'on a vu grand. Donc, on a fait tout de suite 60 000 tonnes. Mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué à mettre en œuvre. Et donc, ça, je me suis dit, mais oui, c'est... Et donc, maintenant, c'est d'ailleurs ce qu'ils disent. Maintenant, on fait des petites unités. Donc, ils ont tous dit, nous, si c'était à refaire, on ne ferait pas des grosses unités comme ça. Ce qu'ils m'ont dit aussi, qui était surprenant, c'est qu'ils m'ont dit, mais en Calédonie... on a eu l'opportunité de faire des usines technologiquement novatrices. Donc, tout d'un coup, je me suis dit, mais mince, ils se sont servis de la Calédonie comme un espèce de champ d'expérimentation avec des techniques novatrices. Et ça, je ne l'avais pas vraiment perçu de Calédonie, parce qu'en Calédonie, on dit, mais c'est bien, on est novateur, etc. Et quand on prend l'avis des multinationales, elles disent, oh, ben oui, ben pour nous, on a expérimenté. Et puis, bon, ben, après, quand on est en Calédonie, on voit les choses différemment. Et ça, je pense que si je n'avais pas été voir des gens dans différents pays, de différentes sources, parce que j'ai vu des banquiers, j'ai vu des analystes, j'ai vu des gens du marketing, je ne l'aurais jamais compris. Enfin, tout ça, je le dis dans le livre.
Jean-Louis Morin, merci pour ce livre très intéressant qui m'a énormément éclairé sur la problématique du nickel. Alors, moi, j'étais passionné par ce livre, mais quand on était en Nouvelle-Calédonie, on a eu des échos d'un certain nombre d'habitants de Nouvelle-Calédonie, un écho plutôt négatif. À quoi vous l'attribuez, cet écho ?
Je pense qu'on ne fait jamais l'unanimité, que je ne suis pas quelqu'un qui fait l'unanimité. Donc, je pense que chacun en Nouvelle-Calédonie a son idée sur le nickel. Hein. Je veux dire, c'est un sujet très prégnant. Donc, chacun a sa vision des choses. Hein. Ça, c'est, mais bon, moi, je suis pour la pluralité d'expression. Donc, toutes les personnes qui veulent s'exprimer, qui veulent écrire sur le nickel, je les lirai avec attention. Je ne peux rien vous dire de plus, hein, si vous ne me dites pas d'éléments précis. Et c'est un sujet passionnel, donc comme toutes les passions, les sentiments sont contradictoires.
Oui, Anne.
Oui.
Je voulais revenir peut-être sur un point là. Alors, j'ai pas lu le livre hein, encore pour l'instant, donc sur le caractère novateur, c'est vrai qu'il y a un caractère novateur qui a été fait par certains opérateurs, mais il a été fait aussi et pratiquement en même temps en Australie et au Canada, hein, puisque Marine travaille différemment, mais sur des bases techniques qui ne sont pas très éloignées, et actuellement rentre en production l'usine de Langarbourg, là, hein, qui a été décalée. Il y a eu d'abord la mine, puis, mais le projet existait à peu près au même moment.
Oui, oui, d'ailleurs, Marine a eu beaucoup de difficultés. Hein.
Marine a eu beaucoup de difficultés, hein, ça c'est sûr. Alors, ils travaillent dans un environnement différent, puisque ils sont dans un plein désert. Eux,
Mais je pense qu'en Calédonie, c'est quand même un petit territoire. Hein, c'est un archipel qui est petit. Et tout d'un coup, vous mettez en 10 ans, 15 ans, deux usines novatrices, plus les projets de la SLN qui, à l'époque, voulaient faire 75 000 tonnes. C'est énorme comme impact sur une petite population. Hein.
Peut-être que la Calédonie n'était pas complètement préparée à une telle révolution.
Mais je pense que ce n'était pas complètement préparé, parce qu'il a fallu former énormément de gens. Il y a eu énormément d'efforts de formation de fait, etc. Moi, je me souviens qu'au début, on me disait, mais en province nord, il y a 70% des gens qui pourraient travailler, qui ont le niveau BEPC et CAP. Alors, vous pensez que si vous passez du BEPC au niveau ingénieur, ça ne se passe pas en quelques années. Enfin, je pense que c'est extrêmement perturbant, c'est extrêmement dynamisant, c'est extrêmement enthousiasmant. Hein. Moi, c'est des sujets qui m'enthousiasment, mais ce n'est pas des sujets faciles. Hein. Et c'est pas facile pour les gens. Non, mais si vous voulez, après, je peux répondre aux questions individuellement, hein, si vous êtes intimidé. Hein.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou une autre c'est pas demande un problème. D'intervention ? Non ? On va peut-être vous remercier. Sauf, peut-être, Eric, tu as quelque chose d'autre par rapport à ton film ?
Non, j'ai bien. Enfin, simplement, moi-même, je me suis aperçu en tournant ce film de la complexité du monde du nickel et puis du rapport passionnel qu'il y a entre les Calédoniens.
Passionnel et paradoxal.
Et paradoxal, oui, exactement. Quoi. Mais passionnant.
Ce que je peux. Donc, s'il n'y a plus d'autres interventions, ou monsieur. Notre député, non ? Monsieur Gomez, non ? Bah, écoutez, je vous invite à.
à rester un peu avec nous et le temps que l'on démonte les chaises et l'écran, et à partager le verre de l'amitié, puis à continuer surtout d'échanger et avec Eric et avec Anne, et puis de découvrir également les ouvrages. Je vous remercie beaucoup.